Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour RCJ. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Anne-Hélène Hogue, commissaire de l'exposition « Les Juifs d'Algérie » qui se tient au Musée d'art et d'histoire du judaïsme depuis le 28 septembre jusqu'au 27 janvier. Anne-Hélène Hogue, bonjour. Vous êtes historienne et conservatrice au Musée d'art et d'histoire du judaïsme depuis son ouverture. C'est la première fois véritablement qu'est présentée une communauté au-delà de son aspect, on va dire, ethnographique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce projet et de votre approche, en fait, de ce thème, les Juifs d'Algérie?
Oui, effectivement, la description, en fait, de ce qu'était l'histoire des communautés juives du Maghreb se fait dans les livres, mais n'avait pas été faite encore sous forme d'exposition. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, la difficulté d'accès aux sources, hein, dont on pourra reparler, la difficulté d'accès aux sources pour être vraiment dans une relation historique, c'est-à-dire l'archéologie, l'antiquité, donc, mais également l'archéologie médiévale, la société juive médiévale, à une époque que l'on considère tous culturellement comme extrêmement importante pour l'Occident, et puis la période ottomane. C'est-à-dire avant la conquête. Donc on a beaucoup de renseignements sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord après la conquête française, notamment sur l'Algérie. Mais en fait, on a très très peu de choses qui nous permettent solidement d'établir des faits historiques ou un parcours avant cette période-là. Et puis, il y a une réalité absolument incontournable dont le musée avait parfaitement conscience, en tout cas les membres du musée avaient parfaitement conscience, c'est que la communauté juive française aujourd'hui est une communauté à majorité algérienne, enfin, très fortement composée par les Algériens, et que justement, disons qu'elles le sont d'une manière assez peu visible en réalité. Même si, d'abord parce que la communauté juive algérienne ne se présentait pas, ne s'est jamais présentée comme telle, mais toujours comme française, et se reléguer en quelque sorte son judaïsme et sa diversité quant au judaïsme dans des petits groupes, dans des communautés, je dirais, qui se reliaient aux villes d'origine, par exemple ceux de Tlemcen, ceux d'Alger, ceux d'Oran, etc. Il y a un fort marquage comme ça de la provenance qui faisait qu'en fait, on n'avait pas l'impression d'avoir affaire à un groupe qui avait à ce point joué un rôle dans la communauté juive, dans la formation de la communauté juive contemporaine.
Et ce que vous soulignez aussi, c'est qu'il s'agit aussi de réparer une sorte d'injustice de mémoire, parce que cette communauté, après le rapatriement, n'a pas assumé cette identité, en tout cas s'est assimilée aux rapatriés et a accepté d'une certaine façon l'effacement de son histoire. Vous dites que c'est un hommage que vous leur rendez aussi.
Oui, absolument. Et d'autant plus personnel d'ailleurs que c'est aussi une partie de mon histoire, hein, que nous redécouvrons tous les uns après les autres. Mais disons qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'il y avait cette histoire algérienne derrière moi, même si elle était passée fortement par Marseille. Je pense que le rapport, si vous voulez, d'abord, il n'y a pas d'injustice. L'histoire n'est pas injuste en réalité. Malheureusement, ce serait peut-être plus confortable de penser comme ça. Non, c'est tout simplement une évolution des choses. Les générations répondent aux urgences de leur époque, elles répondent aux questions de leur époque, et elles sont assez peu capables de contrôler le futur, pas plus qu'elles n'ont pu contrôler ce qui s'est passé avant elles. Alors aujourd'hui, nous pouvons par contre dessiner davantage les contours de cette histoire pour laquelle il y a une très forte nostalgie, mais... Dire qu'il y a eu assimilation également ne me semble pas exact. D'abord, je ne crois pas au terme d'assimilation en tant que tel. Je pense qu'il y a acculturation, forte acculturation, mais pour des raisons extrêmement logiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous situer dans la laïcité et en même temps laisser vos origines guider votre vie, déterminer absolument votre vie, vos origines ou votre religion. Je pense que la formation de l'individu et sa prise de conscience de soi, elle est aussi amenée amenée par des circonstances extérieures, elle est amenée par des rencontres. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dedans. Et je pense que le facteur nostalgie ne surgit pas tout d'un coup parce qu'il y a 50 ans d'histoire après 1962, mais bien parce qu'il y a une génération qui ne sait pas et que les parents et grands-parents se posent la question de que laisser, en fait, et que laissons-nous. Et ils ont le temps maintenant, eux qui sont à la retraite, de penser
à la transmission.
Exactement, à la transmission. Les générations dans l'action n'ont pas le temps de penser à la transmission. Qui sont eux-mêmes dans la génération, si vous voulez, n'ont pas le temps de penser la transmission intégralement, comme ça, avec tout ce deuil, par exemple, qu'il faut faire, ces ruptures dont il faut faire état, etc. Et évidemment, alors, aujourd'hui...
Peut-être que plutôt que d'injustice, est-ce qu'on... Vous avez eu le souci de peut-être de revaloriser finalement une culture qui était restreinte au domaine de l'intime, du familier,
exactement.
De la porter sur la place publique, oui. En fait, de lui faire l'honneur voilà, d'un musée, enfin d'une exposition sur plusieurs mois.
Oui, d'abord rappeler que c'est une culture complexe et que la culture juive par excellence est une culture complexe. Toutes les cultures, enfin, il n'y a pas de culture univoque, etc. Bon. Ensuite, il y a dans cette histoire de génération, si vous voulez, cette discrétion vient du fait qu'il a fallu vivre tout de suite, il a fallu s'intégrer rapidement à la société française, qui n'était pas pour beaucoup une société connue, contrairement à ce qu'on pense, même si la langue, la littérature, la culture étaient parfaitement maîtrisées. En réalité, les codes de la métropole ont dû être acquis très très vite. Et les codes sociaux dans un milieu qui était assez hostile à l'arrivée des rapatriés. La communauté juive a elle-même, au cours des années 1950, eu beaucoup de mal à mettre en place les structures qui, c'est-à-dire même à anticiper cette arrivée massive de juifs d'Afrique du Nord et notamment de juifs d'Algérie qui sont arrivés par vagues de plus en plus importantes à partir de la fin des années 50, je peux dire entre 61 et 62, on voit là un afflux massif pour les derniers en quelques semaines à peine. Et on peut imaginer le désarroi de la mise en place de toutes ces structures. Enfin, c'est quand même pas du tout facile. Donc, et puis ensuite, les Juifs n'arrivaient pas en disant « je suis juif ». Ils ne sont pas allés directement à la communauté juive pour chercher de l'aide. Et cette discrétion-là, elle n'apparaît pas dans les statistiques officielles. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez, il fallait... avant que tout remonte et avant qu'on ait des... Par exemple, on n'a pas de chiffres. On ne sait pas, est-ce que c'est 110 000 ou 160 000. On hésite encore sur cette échelle-là.
Du nombre de juifs algériens
Bien sûr, parce qu'on ne va pas se faire recenser. Et heureusement, on ne fait pas d'abord les statistiques par religion. Elles sont interdites en France, heureusement. Et donc, vous voyez, donc on a quand même cette discrétion qui aujourd'hui n'est plus de mise parce que ce qui était discret l'était par nécessité, je dirais, pas par contrainte nécessairement, mais parce qu'ils avaient autre chose à faire, autre chose à penser.
Dites-nous un peu comment vous avez procédé pour nourrir cette exposition qui est extrêmement riche. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que l'histoire des Juifs d'Algérie, elle commence en 1830 avec la conquête ou en 1870 avec le décret Crémieux. On a ces balises dans la tête. Et alors, on est face à, finalement, une profusion de documents, d'objets. Expliquez-nous comment vous les avez collectés.
Alors, c'est très intéressant, oui, comme vous dites, l'histoire des Juifs commence. C'est-à-dire qu'on fait entrer les Juifs dans l'histoire, finalement, au moment de la colonisation.
Oui,
les Européens ont fait rentrer les autres mondes dans leur histoire à partir du moment où ils les ont rencontrés d'une façon stable, on dira, pas ponctuelle. Sur les archives et les collectes, c'était très difficile de reconstituer 2000 ans. C'est symbolique quand je dis 2000 ans. En réalité, on essaye d'aller au-delà de ça. Il fallait démêler plusieurs questions. Les Juifs sont-ils arrivés avec les Phéniciens? À quelle période? Quel était leur nombre dans le pays? Où étaient-ils établis? Comment étaient-ils établis? Quelles sont les traces concrètes, les vestiges archéologiques qui sont les seules choses qui nous prouvent l'ancrage de communauté juive ou de présence juive sur la terre nord-africaine. Comment s'est fait ce processus d'intégration dans le territoire? Nous n'en savons que très peu de choses.
Ça, c'est des questions que vous avez, que vous vous êtes posées, que vous avez résolues ou qui étaient déjà, on va dire, auxquelles des livres avaient déjà répondu?
Non, les livres n'y répondaient pas. Justement, c'est des questions qu'on s'est posées, enfin que je me suis posée quand j'ai dû rassembler le matériau. C'est-à-dire que
c'est un travail d'histoire que vous avez
fait. Oui, voilà. D'abord, je suis historienne de formation et avant de faire de l'histoire contemporaine, j'ai fait de l'histoire de l'archéologie, de l'histoire antique et médiévale. Et puis, j'ai bifurqué vers l'histoire contemporaine. Puis, vous savez, les formations étaient très complètes. Enfin, on était obligé d'apprendre un certain nombre de choses. Donc, on a un schéma. Comme ça, on se dit, voilà, quelles sont nos étapes et on passe par des faits. On passe par des... Bon. Et aller chercher ces faits, c'était très difficile. Nous n'avons pas grand-chose sur la période médiévale, plus pour l'Égypte, plus pour le Maroc ou pour l'Espagne, mais nous n'avons rien pratiquement pour l'Algérie. Nous n'avons pas grand-chose sur la période ottomane. Il a fallu aller chercher dans les archives françaises parce que nous n'avons pas assez de chercheurs, juifs ou non-juifs d'ailleurs, qui travaillent sur les archives juives dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire les archives ottomanes elles-mêmes, pour aller chercher les sources parlant des juifs.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a des obstacles, par exemple, de langue, puisqu'il faut à la fois savoir parler le turc.
Absolument, l'arabe.
L'arabe.
Il faut lire.
L'hébreu. Enfin,
l'hébreu ancien.
L'arabe
mais bien en sûr, écriture hébraïque. Nous avons un problème de formation des chercheurs. Il faut s'y mettre. Il est urgent maintenant de se pencher sur l'univers des cultures méditerranéennes et dans les pays arabes et de de faire l'apprentissage des langues. Alors il y a des personnes qui le font, mais disons que sur des sujets de recherche, nous ne pouvons pas nous contenter uniquement des sources juives rabbiniques ou uniquement par le hasard, si vous voulez, de documents qui nous seraient livrés comme ça par le consulat de France ou ce qui a été mon cas. J'ai travaillé sur les archives commerciales, si vous voulez, du consulat de France. Et donc, on ne voit apparaître que des histoires de naufrages ou de marchandises avariées. Mm-hmm. Mais ça permet d'avoir des noms, un peu plus de noms que ceux que nous avions.
Et des documents quand même.
Voilà,
des documents.
Et des beaux documents d'ailleurs, très intéressants. Mais surtout de faire ressurgir les noms. Et c'est là qu'intervient la notion d'hommage.
Ce que vous parlez d'urgence, vous avez insisté là-dessus. On a l'impression qu'en fait, les Juifs séfarades, de façon générale, n'ont pas peut-être pris la mesure de leur histoire comme ont pu le faire, peut-être à cause de la Shoah, les Juifs ashkénazes. Vous invitez finalement les Juifs séfarades, enfin de notre génération, à s'emparer de leur histoire.
D'abord, première chose, je pense qu'effectivement, le travail des généalogistes aide énormément parce qu'il y a une conscience très aiguë. Alors ça, c'est très particulier à l'Afrique du Nord. D'où venons-nous ? Hein, sommes-nous des séfarades? Sommes-nous de quel endroit venons-nous? C'est-à-dire qu'il y a une conscience, en fait, de l'origine de la famille qui est extrêmement forte dans toutes les familles qui sont venues m'apporter des archives. Il y avait toujours une généalogie, plus ou moins vérifiée, mais en tout cas une généalogie qui disait « ma famille vient de là et nous avons le grand rabbin tel ou le rabbin tel ou tel personnage dans la famille ». Bon, alors il y avait assez peu l'histoire des femmes. Ce que j'ai essayé de susciter dans les interrogations que je posais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois une forte conscience de l'origine et en même temps assez peu de faits rassemblés autour de ça, si ce n'est les actes de naissance accessibles ou les traditions familiales au sens original du terme, c'est-à-dire vraiment ce qu'on transmet oralement, ce qui est dit par la grand-mère, le grand-père, de l'origine, de ce que disaient avant le grand-père et la grand-mère. Donc on est déjà dans cette tradition orale qui n'est pas négligeable et qui vaut d'être recueillie comme toute tradition orale, même si après il faut la vérifier. Et puis retourner alors vers la question du récit de la généalogie familiale ou du récit, si vous voulez, générationnel. Je pense que c'est fait. Je pense qu'il y a énormément. D'abord, il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur les communautés juives d'Afrique du Nord. Alors pas énormément sur l'Algérie, c'est plus de l'ordre du souvenir que de l'ordre de l'histoire, ou alors sur l'histoire contemporaine, je dirais à partir de voilà, Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, ou jusqu'à 1962. Il y a une forte conscience au sein des communautés elles-mêmes à Paris de l'origine, de l'histoire de cette communauté en Algérie, dont elles ont pris la succession à Paris, donc il y a une forte revendication là-dessus. Et puis, il y a un récit familial qui peut se faire par la mémoire. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes qui ont écrit, publié elles-mêmes ou voilà, auto-édition.
À compte d'auteur ou
exactement. D'accord. Donc il y a énormément de témoignages. Mais bon, une fois qu'on est dans cette chose-là, il faut rentrer dans l'archive familiale, qui est le matériau de l'historien, si vous voulez, à partir du moment où il travaille. C'est-à-dire, qui est sur cette photo? Quelle date? Où ça? Comment tout ça est parvenu? Bon, pourquoi? Où sont les personnes? D'où venait votre mère? D'où venait votre père? Les grands-parents? Quelle profession? Par où ils sont passés? Degré d'éducation? Ça, c'est des choses qui nous disent quelque chose, mais uniquement sur la période à partir de 1830. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Eh bien, après, il y a la légende séfarade, si vous voulez. La légende séfarade qui dit nous venons de Gibraltar, nous venons d'Espagne, de tel endroit,
de
etc.
Mallorca.
Alors, on peut le prouver sur la famille Durand, par exemple, où on voit très clairement ce manuscrit transmis depuis l'exil du rabbin du Rajbats en 1391 de Majorque à Alger. Après l'édition des Taganotes, etc., la réformation, la réforme du judaïsme algérien, comme ça, la revivification, et puis cette famille qui se transmet ce manuscrit de génération en génération et qui finalement arrive dans les années 2000 à décider qu'elle veut le sauvegarder avant tout et donc elle le donne au musée. Alors il y a la possibilité de déposer dans un endroit de conservation garantie, je dirais, de continuité. Une relève en quelque sorte. Et puis il y a les familles qui gardent sans savoir trop ce qu'elles gardent, ou qui gardent en sachant ce qu'elles gardent, ou qui ne gardent pas. Bon, et ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Si vous laissez avec ces familles-là que nous devons retrouver l'histoire des Juifs d'Algérie. Et cette expo, elle était là pour ça. Et nous sommes en passe, donc maintenant, d'arriver à créer un fonds des Juifs d'Algérie. Nous avons eu quelques dons, et notamment le don de Jean-Claude Laloux, des archives Laloux sur les Juifs de la Gouate, par exemple, sur lesquels on a finalement très peu de choses. Mais voilà qu'arrive Jean-Claude Laloux qui nous dépose les archives familiales avec beaucoup. C'est son père et son grand-père étaient maires de la Gouate. C'était en plus des orfèvres, une famille d'orfèvres réputée. Il y a la famille Zénou, il y a la famille. On arrive à voir les réseaux. Et je pense qu'il faut essayer de travailler comme ça. Il faut travailler avec cette forte conscience des réseaux qu'ont les Juifs d'Algérie eux-mêmes. Tu viens de quelle famille, vous êtes de quelle famille, etc. Cousin tel, ça fonctionne beaucoup en réseau.
Qui permet de faire des regroupements.
Exactement, et c'est incroyable ce qui se passe dans l'exposition. Parce que les gens se retrouvent sur les photos. Enfin, c'est presque l'émission perdue de vue par moment. C'est extraordinaire. C'est à la fois très satisfaisant, très émouvant, puis en même temps, on sait qu'on va aller plus loin.
Concrètement, les gens sont venus à vous. Vous avez lancé un appel. Les gens sont venus à vous, au musée avec leurs archives, les objets, les documents. Et vous êtes allés chez les gens.
C'est-à-dire qu'on a pour certaines personnes, l'une nous donnait le numéro de téléphone du cousin qui était prêt à nous voir, etc. Puis il y avait des personnes qui venaient spontanément.
Et ça a bien fonctionné, cet appel.
Je dois dire une chose, ça a fonctionné extrêmement bien. En un an, nous avons vu plus d'une centaine de personnes. Et quand je dis une centaine de personnes, il faut envisager tout ce qu'il y a comme famille derrière. Alors tout n'a pas été montré, exploité, n'est pas montré dans l'expo exposition. Dans l'expo ou dans les numérisations. Mais voilà, il y a un résultat. Alors malheureusement, je trouve que les communautés organisées, si vous voulez, un point de vue institutionnel, on a eu assez peu de contributions, assez peu de réactions. Je pense qu'en fait, les Juifs d'Algérie ont une mémoire très individuelle et ils n'agissent pas en collectif.
Voyez, il y a des amicales, un peu comme de Tlemcen.
Mais justement, Tlemcen, je dirais que c'est presque une exception.
Une exception, d'accord.
Tlemcen a une conscience de l'histoire de la communauté de Tlemcen, la fraternelle, l'union des amis de Tlemcen est quelque chose d'extraordinaire. Après, il faut voir tout ce qui est en Israël aussi, qui a été déposé, donné dans d'autres endroits. Moi, j'ai trouvé des pièces extraordinaires sur lesquelles il faudrait travailler et qui viennent de Constantine, par exemple. Voilà, il y a une complexité dont nous n'avons pas encore pris la dimension. Je suis sûre qu'il y a dans les synagogues un patrimoine mémorial très intéressant, mais ça ne vaut pas que pour les Juifs d'Algérie. Ça vaut, je dirais que les seuls qui sont très démunis sont les Juifs d'Égypte à cause des conditions dans lesquelles ils ont dû partir.
Est-ce que vous pensez que cette exposition, la méthode, l'aspect thématique est appelé à faire des émules, enfin, vous êtes appelé à vous intéresser à d'autres communautés ensuite, ou vous voulez éviter le caractère systématique,
oui, les Juifs marocains, les Juifs tunisiens, oui, alors sur les Juifs tunisiens, non, je pense qu'il faut faire quelque chose, et pas seulement sur eux, sur les Juifs de Libye aussi, il y a absolument quelque chose à faire, et bon, c'est quelque chose auquel je pense déjà, mais ce qui est certain, moi j'aurais adoré faire une expo sur les Juifs d'Égypte. Voilà, donc ça c'est vraiment le... et si c'est pas moi, il faut que quelqu'un d'autre au musée le fasse, et le musée est certainement le meilleur endroit pour faire ces expositions, parce que justement on n'est pas dans le politique, ce que la communauté doit être, mais nous sommes justement alliés, et en même temps nous sommes là pour rendre compte, pour faire un état des lieux, non pas pour récriminer, si vous voulez.
J'invite les auditeurs à prolonger l'exposition en descendant quelques marches dans les...
Dans les foyers de l'auditorium, oui, pour voir l'exposition elle est de Sophie Elbaz.
Mise en valeur et où elle résonnera aussi autrement.
Quand on descend dans les foyers de l'auditorium, nous avons là quelque chose qui part dans une autre direction que cette espèce de bagage, je dirais, affectif qui est représenté par la musique ou par les images des boxeurs ou à la fin de l'exposition, ces films de chanteurs, qui est une sorte de patrimoine immatériel qu'ont emporté avec eux la seule chose donc, qui est encore une certaine vie aujourd'hui, si vous voulez, de cette histoire-là. Hein. À part les personnes, bien sûr, qui font des enfants. Et bon. Quand on descend dans les foyers de l'auditorium, on est face à une mise en, je dirais presque en relief de ce qu'est la quête de mémoire de la part de quelqu'un qui a, d'abord, qui est une artiste, une photographe, qui a déjà un parcours sur sa, de quête sur d'autres choses. C'est une fille qui est partie en reportage dans des conditions très difficiles. Elle a été reporter de guerre. Elle est partie dans des conditions vraiment dures. Et elle a décidé de travailler plus sur la photographie. Et quand nous nous sommes rencontrés, l'idée de présenter quelque chose sur les Juifs d'Algérie venait immédiatement de son désir de parler de ce temps qu'elle avait passé à Constantine en quête de l'histoire de son grand-père, des traces de sa famille. Et justement, cette quête qui est d'abord très enchantée, très idéalisée, si vous voulez, avec une idéalisation du monde oriental, du monde, du souvenir, de la famille, la beauté des ruines. Tout est beau, tout est magnifique, tout est superbe, tout est majestueux. Et en même temps, la prise en compte, eh bien oui, de l'état, voilà, elle fait un état des lieux.
Délabré,
de la ruine, abandonné. Et en même temps, de tout ce qui résonne, de tout ce qui résonne encore, de tout ce qui est de tout le potentiel de ces ruines.
Anne-Hélène Hogg, merci. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a donc soutenu l'exposition dont nous avons parlé. Deux adresses pour nous retrouver, radio rcj.info et mémoirevive.net.